La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici, au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeux et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekiosqueapizza.com. Pour votre santé, bougez plus.
Vous écoutez
RMC.
RMC.
On va rester sur la progression par rapport à ce qu'ils ont fait dernièrement en championnat. Mais je pense qu'il faut être réaliste.
Regardez les stats. À un moment donné, le hasard, ça arrive jamais par hasard.
Quand je dis que l'entraîneur et le mari, c'est le dernier à savoir la chose, c'est vrai. Si elle est à le corne, comment ça fait?
Cocu.
Si elle est cocu, c'est le dernier à savoir la chose.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
Bonsoir à toutes et à tous. Et oui, l'after est là comme tous les soirs jusqu'à minuit sur RMC. Bonjour à toi qui nous écoutes en podcast. Avec ce soir autour de la table de l'after du vendredi, Kevin Diaz. Salut Kevin.
Salut à tous.
En face de toi, Walid Achachour, ton élève. Salut Walid.
Salut Nico, salut Kevin, salut à tous. Salut.
Allez, Walid. Tout de suite sur la chaîne YouTube de l'After, bien sûr. On est en direct sur RMC à la radio, mais aussi sur YouTube, @after-foot, pour observer le nouveau style, nouveau look, très Festival de Cannes de Walid Achachour. Qui, monsieur, désormais, depuis ce soir, a décidé de faire les émissions avec des lunettes de soleil.
What a class.
Non mais... On est en train de le perdre là.
Non, Kevin. C'est parce qu'en fait, t'as conscience de ça. On est en train de le perdre.
En plus, des lunettes franchement raccordées au t-shirt, tu vois.
On dirait lunettes de Michou quand même. T'as fait le Michou,
un petit gris vert avec les verts bleus du coup.
Ouais.
Je vous invite à voir ça sur la chaîne YouTube. On va avoir ce soir.
C'est ma femme.
On va avoir 10 000 viewers.
Voilà.
C'est ma femme qui est opticienne qui me les a créés. C'est une création.
Elle est vraiment opticienne.
Ouais, opticienne. Ouais. Les a créés aujourd'hui.
C'est quoi son prénom?
Elle s'appelle Inès.
Inès, on te salue Inès. Ouais. Essaie de remettre Walid sur le droit chemin.
Par contre, moi je veux les mêmes.
On est en train de le perdre.
Ouais. On t'en fera une. Ouais. Non mais en fait, j'ai un gros problème, c'est que c'est le pollen et que j'ai des yeux en forme de... Je ressemble à une mouche, donc j'ai mis les lunettes.
Bon, sinon, si vous n'avez pas YouTube devant vous, allez sur mon compte Instagram, la photo est
en story. Ah d'accord, tu fais la promo et
tout. Non, et tout.
Ah, tu vas aller chercher les abonnés. C'est 100 abonnés, c'est cadeau. Allez, tiens, c'est pour moi. Allez, tiens, c'est pour moi.
J'en ai tellement pas, mon Dieu.
Ouais, quoi. Tiens, allez, prends-les.
T'en as passé de 100 à 120 que je vais devenir une star de l'influence, quoi.
T'en as combien? Tu sais que tout le monde sait combien il a d'abonnés.
J'ai 1000 précisément, tu veux savoir?
Ouais.
Je rappelle qu'on est à la radio française là, ce qu'on fait c'est pas du tout radiophonique. Hein. 1418.
Allez, t'en prends. 1418.
1418.
Allez, t'en prends 100 dans la demi-heure.
Ouais. T'es influenceur à partir de combien? Tu considères que t'es un influenceur
à partir de 10 000 je crois.
10 000 t'influenceur? Il y a une règle?
Non, je sais pas, j'avais lu ça une fois.
Non.
Bon. Walid, t'es déjà influenceur?
Non, non, moi je suis pas.
Ah bah si, Walid, c'est énorme.
Moi je crée du contenu.
Attends, mais il y a un nouveau compte Instagram là, Walid 2, c'est quoi ça?
Ouais, parce qu'en fait, c'est une longue histoire.
Les amis, ce soir c'est l'after, le foot qui nous réunit surtout avant les réseaux sociaux. Saint-Etienne va donc jouer le barrage Ligue 1, Ligue 2 face à Metz, vainqueur de Rodez de 2-0 à Geoffroy Guichard. La fête à Saint-Etienne. Il va falloir récupérer très vite pour enchaîner sur les deux matchs face au Metz. Demi Cotazé, appelez-nous, supporter stéphanois, on va débriefer cette victoire qui a été un peu longue à dessiner, mais l'essentiel. Et là, bien sûr, on vous attend également Ruthénois, supporter de Rodez, pour nous parler de cette belle saison qui s'achève ce soir. Avez-vous des regrets? Et puis, ce soir également, programme de l'After, bien sûr, veille de finale de Coupe de France, Lyon-PSG à Lille. L'avant-finale, les dernières infos, Mbappé sera titulaire, sa présence change-t-elle la finale dans le rapport de force? Tiens, les questions ce soir que j'adresse aux supporters parisiens. Est-ce qu'il peut sauver sa sortie s'il brille demain soir à Lille? On écoutera aussi Manu Petit, hein, qui s'est lâché, mais alors... Dur sur l'homme, dur sur Mbappé. Tout à l'heure dans Rotten sans flamme, il ne supporte plus le personnage. La pression de cette finale n'est-elle que sur les épaules du PSG ou de Lyon également? Et puis on verra si en cas de victoire, hein, le regard sur la saison de Paris sera différent. Victoire ou défaite, on donnera les infos compo probables Paris, compo probables Lyonnaise. On écoutera également Alexandre Lacazette ce soir. Et puis à 23h30, dossier Lens. Arnaud Pouille sur le départ, Franck Haise aussi, après celui du directeur sportif Frédéric Hébert. Déflagration à Lens, qui ne nous a pas habitués à ça depuis longtemps. Avid Walid à 23h30, je ne comprends rien à ce que fait le Racing Club de Lens, supporter lensois. On vous attend au 32-16 et puis les infos Mercato du jour. C'est parti pour l'after sur YouTube en direct, le 32-16 est ouvert. Vous nous appelez, supporters parisiens, lyonnais, stéphanois, ruthénois, lensois, et également le hashtag RMC Live sur Twitter. C'est parti pour l'after. Ce sera donc Saint-Etienne, le troisième de Ligue 2 qui va jouer sa finale en deux matchs hein, face à Metz. Match de barrage pour l'accession en Ligue 1. Premier match, match aller 30 mai, jeudi prochain à 20h30. Le retour le 2 juin sur la pelouse de Metz à 17h dimanche prochain. On vous attend au 32-16 supporters stéphanois. D'abord les amis, normal, logique la victoire stéphanoise.
Oui, oui logique. Saint-Etienne a eu les meilleures intentions, ils se sont procurés les plus grosses occasions. Même si Rodez avait bien démarré le match, Saint-Etienne a mis beaucoup d'intensité. Déjà sur la première mi-temps, il y a eu un gros temps fort où on a senti que c'était vraiment le dernier geste qui pêchait. Il y avait beaucoup de coups de pied arrêtés aussi, beaucoup de corners. Et en deuxième mi-temps, aux alentours de la 60e minute, à ce but de Cardona, juste avant aussi une grosse occasion où un Rodésien, c'est ça on dit un Rodésien ?
Un Ruthénois
a sauvé sur la ligne une grosse occasion de Sissoko. Et derrière, hormis la petite frayeur avec Tardieu et Larsonneur qui se sont un peu entrechoqués, il n'y a pas eu de véritable grosse occasion de Rodez. On pouvait le craindre parce que sur le dernier match Saint-Etienne-Rodez, il y a 2-3 semaines, il s'était fait piéger après avoir mené au score. Mais voilà, Saint-Etienne va aller au barrage et globalement, même sur la deuxième partie de saison en Ligue 2, c'est mérité.
Kevin.
Ouais, c'est clairement mérité. On voit forcément que cette équipe de Rodez, je vais pas dire qu'elle a atteint ses limites, mais en tout cas, elle est arrivée là à un plafond de verre en plus dans un stade Geoffroy Guichard forcément plein avec une atmosphère extraordinaire. Déjà, j'ai quand même envie de dire bravo à cette équipe de Rodez.
Ah oui, ils ont eu les occasions, hein, tu l'as dit aussi.
Oui, on prend
en première et même en deuxième là, hein, oui, sur l'erreur de l'Arsenal.
Il y en a une de Corridor qui doit mieux jouer. Mais c'est plus une erreur de Saint-Etienne qui fait.
Oui, c'est vrai. Mais c'est déjà énorme.
Mais t'as raison,
les joueurs de Rodez, c'est un club qui était en National 2 il y a encore 4 ans, qui est en train de se structurer.
9 millions de budget, t'imagines ?
Ouais, 9 millions. Non, mais ça travaille très très bien. Ils vont souvent chercher les meilleurs joueurs du niveau national ou en dessous. Et ça travaille intelligemment. En tout cas, pour revenir à Saint-Etienne, ils vont l'avoir, leur finale. Je pense quand même qu'ils avaient le niveau pour finir deuxième derrière la JOCR. Ils se sont fait avoir sur le sprint final en manquant de régularité, notamment à domicile où ils ont laissé passer leur chance contre Pau. Mais en tout cas, ce soir, ils ont quand même, c'est jamais facile. Alors, c'est clair que le niveau de jeu dans un match de play-off, moi qui en ai joué pour le coup, alors j'ai pas joué en Ligue 1, mais des matchs de play-off pour aller en Ligue 1, j'en ai joué quelques-uns et avec aussi beaucoup d'enjeux et beaucoup de stress.
Visiblement, tu les as tous perdus.
Non, je ne les ai pas tous perdus, parce que tu peux passer un tour et ensuite tu peux faire deux fois match nul et c'était à l'époque comme les Coupes d'Europe. J'en ai même perdu un au pénalty, si tu veux savoir, deux au pénalty. Donc c'est très très compliqué, c'est des matchs où il y a beaucoup d'enjeux, où il y a souvent peu de spectacles, mais où chaque erreur est fatale. Donc cette équipe de Saint-Etienne, qui devait avoir quand même énormément de pression, a réussi à gagner ce match. Et maintenant, ils vont avoir une double confrontation face au FC Metz. C'est quand même assez rare que les équipes arrivent à battre la Ligue 1. Ça a été arrivé justement avec Auxerre face à Saint-Etienne. Mais je crois que c'était le seul cas où une équipe de Ligue 2 avait gagné le barrage pour monter en Ligue 1.
Bon, pour l'instant, il y a une sorte de logique. Hein. Le cinquième sorti par le quatrième sorti par le troisième. Et donc le troisième va s'expliquer face au 16e de Ligue 1.
Je viens de le dire, Rodez, trois matchs en 8 jours. Ajaccio, PFC avec la séance de tir au but et plus un déplacement à Saint-Étienne. Oui, c'est sympa. Après, le problème, c'est que les matchs pour des équipes comme ça, enchaînés tous les trois jours, c'est un peu.
Ça aurait fait 6 matchs en 16 jours.
Hein. C'est un peu compliqué. Voilà, monter, hein. On va pas revenir sur le modèle, mais c'est quand même le parcours du combattant pour ce type d'équipe.
Allez, on accueille les supporters stéphanois, bien sûr. Comme un symbole, on va commencer par Étienne. Salut Étienne. Etienne, bonsoir, bienvenue dans l'After avec Walid et Kevin. On est heureux de t'accueillir.
Bon, j'ai bonsoir, que t'es, bonsoir, Kevin.
Que t'es plus heureux que nous également.
Bah, plus qu'heureux, là, je suis soulagé, même si c'est qu'une première étape, une sacrée étape, parce qu'après, il va falloir taper Metz. Mais ouais, franchement, là, on était obligé de gagner, là, les trois derniers matchs qui nous ont pondus, là, donc je rappelle, on était devant Angers, on menait 2-0 à Guingamp, qui n'avait plus rien à jouer, on a fait 2 partout. Ensuite, contre ces mêmes Ruthénois, on a fait 1 partout à la maison, alors qu'on était toujours devant. Et on est parti perdre 2-1 à Quevilly, qui était déjà relégué en national. Donc là, on était
alors que Angers n'avait pas battu Dunkerque sur la dernière journée.
Bah, merci Walid, t'es sympa. Super, tu remues bien le couteau.
Non, mais c'est important de le dire. C'est qu'en faisant un résultat positif à QRM, tu serais monté. Donc même malgré le match nul à Rodez où tu mènes 1-0 jusqu'à la 80e minute et malgré le 2-0 Guingamp 2-2, même avec ce match-là, aller perdre chez le 19e ou le 18e de Ligue 2 qui était condamné, tu as raison d'insister là-dessus. Il fallait se relever et ce soir, ils n'avaient pas le droit à l'erreur.
Et puis surtout, je pense que quand on analyse les matchs comme vous, je dis pas que vous y connaissez rien, attention, hein, mais je pense que vous allez être d'accord. On se dit, tranquille, c'est les Verts et tout, en mode on va mettre la pression, Geoffroy Guichard et tout. Mais moi, je pense que vu que, sans être méchant avec eux, mais c'est des joueurs de Ligue 2 plus, chacun, on les met dans des clubs de Ligue 2, se débrouillerait plutôt pas mal. Mais je pense qu'au contraire, le maillot, il pèse lourd. Vous voyez ce que je veux dire?
Bien sûr.
On a ressenti un peu de tension dans les tribunes à un moment donné. Hein.
C'est ce que je disais, mais c'est normal. Il y avait énormément de pression sur les joueurs de la AS Saint-Etienne. Après les péripéties qu'ils ont connues sur les trois dernières semaines, tu joues face à une équipe en plus comme Rodez, qui n'a rien à perdre.
Du bonus.
Rodez, ils n'ont rien à perdre. Ils viennent là, pour eux, ils ont fait une saison extraordinaire, historique. C'est peut-être la meilleure saison de l'histoire de leur club, je pense certainement même. Alors que de l'autre côté, à Saint-Etienne, tu as une pression monstre. Oui. Comme tu dis, il y a l'appui, mais il y a aussi forcément la tension de jouer à Geoffroy Guichard, de ne pas vouloir décevoir tes supporters. Donc,
franchement, quand tes supporters et qui plus est dans le cadre d'un barrage, c'est des matchs horribles en fait, t'as vu, parce que c'est où tu tapes la honte et où tu gagnes et c'est normal, tu vois ce que je veux dire?
Exactement.
Et par-dessus le marché, là, on va se retrouver à devoir jouer Metz sur un aller-retour. Là, ça va être compliqué, je pense. À mon avis, je pense c'est un petit 55-45 pour Metz, parce qu'ils auront Nico Tadze, forcément. Et nous, je vois que l'Arseneur, il a été touché. En vrai, quand à chaque fois Green y joue, j'ai rien contre lui. Je l'ai vu en plus. Il s'appelle Etienne Green. L'histoire, elle est magnifique. Il est formé au club.
Ouais, mais c'est moins bon quand même.
Dès qu'il joue, c'est violent. Oh, on a pris une manita par Auxerre. Même en Ligue 1, à chaque fois qu'il joue à Bichette, il prend des sauces. Donc, ça va être compliqué contre Metz. Mais bon, j'y crois, parce que mine de rien, Metz, ils n'ont pas souvent le ballon.
Après, vous avez Miko Tadze qui est en grande forme, mais peut-être que là aussi, le rapport de force mentale peut s'inverser avec peut-être un match à la maison, parce que c'est le match à la maison.
Un match aller à la maison,
si tu arrives à faire un très très gros match, leur mettre la pression là-bas à Saint-Symphorien et pouvoir jouer sur les qualités de tes attaquants. Parce que là, Sissoko, il a pas fait un énorme match ce soir. Même s'il est tout le temps dans les bons coups, mais avec un Cafaro comme ce soir qui à chaque fois dynamite son côté, il est dans la percussion et Cardona qui fait une deuxième partie
efficace.
Extraordinaire.
C'est le Miko Tadze de Saint-Etienne, quoi. Il arrive en janvier d'Augsbourg, 9 buts, 3 passes. Voilà,
c'est quand même beaucoup, parce que c'était quand même beaucoup les deux.
À Augsbourg, voilà. Prêté par Augsbourg d'ailleurs.
Ok.
Jusqu'au 30 juin 2024.
Ils ont fait un packaging là-bas.
Quel flair d'aller chercher Cardona.
Il fait une deuxième partie de saison qui est extraordinaire. Déjà, le but qu'il avait mis contre Bordeaux, il y avait eu un match à Angers très important aussi là-bas. Il avait été buteur. Et là, ce soir, après, il a un gros salaire. Hein,
figure-toi, c'est Guzman qui expliquait ça, tu as dû voir. Oui, mais. Prêt gratuit.
Oui, mais.
Avec 20 000 euros pris en charge par Saint-Etienne seulement.
Mais avec le salaire de Augsbourg, ça reste un joueur qui normalement ne devrait pas jouer en Ligue 2. C'est un peu comme les Gauthier, etc. C'est des mecs qui sont entre la Ligue 1 et la Ligue 2 et ils le montrent sur ce type de match qui sont au-dessus. Et lui dans la double confrontation contre Metz, il va encore être très très important. Comme l'Arseneur qui lui aussi a été acheté quand même, je crois, 2 ou 3 millions d'euros par Saint-Etienne. 3 millions d'euros pour un gardien de Ligue 2, c'est quand même énorme. Et il répond présent cette année. Et on sent que quand il est là et quand il n'est pas là, c'est quand même très différent. À noter aussi Nadé qui a fait un super match défensivement ce soir, qui a bien tenu Utonji.
Il est horrible.
Il
est horrible.
Non, mais c'est vrai que je suis étonné. D'habitude,
à Saint-Etienne, il y a.
Mais
à Saint-Etienne, il y a des joueurs hein, quand même. Mathieu Cafaro, c'est un très très beau joueur de foot. Il a une blessure, mais sinon, franchement, je l'ai vu débuter à Reims, extraordinaire. Un gars qui est formé à Toulouse, qui a toujours eu beaucoup de qualité. Même un joueur comme Nathanaël Mboukou,
quand tu connais lui,
il est formé dans un grand club, très grand club,
très grand club,
bien sûr. Lequel? Les Lusitanos de Saint-Maur, bien sûr. Mais aujourd'hui,
tu peux rajouter même Tardieu qui a 3.
Tardieu.
Même sur Ligue 1.
Jean Bost. Il y a des joueurs. Il y a des joueurs de Ligue 1,
Masson qui avait eu les croisés mais qui en Ligue 1 sous Puel avait déjà montré de grandes qualités, qui est un latéral ils ont une équipe sympatoche. Après, pour la Ligue 2, parce qu'en Ligue 1 face à Metz, on va voir ce que ça va
donner, mais pour un match ouvert contre Metz,
pour moi c'est très très équilibré.
Etienne, pour finir,
c'est vraiment un bon petit joueur, Bouchouari. C'est vraiment le petit joueur.
Dommage qu'on le voit plus, on le voit plus trop dans la dynamique là.
Ouais, mais en gros, Walid, je vais t'expliquer. En gros, comme disait un grand philosophe, je nourrissais beaucoup d'espoir en lui à Clairefontaine. Mais du coup, en gros, il se passe qu'à chaque fois qu'il joue, il y a un problème d'équilibre, on se fait trouer. Moi, je l'aime bien aussi, t'as vu, comme il porte le ballon et tout, ce petit côté technique et tout, cette petite touche. Mais dès qu'il joue, c'est malheureux, on se fait trouer.
Ouais.
Donc, c'est compliqué de garantir l'équilibre de l'équipe quand il est là. Mais moi, c'est un joueur sympa à voir jouer.
Benjamin Bouchouari, qui est passé par Roda, hein, dans ton pays, dans le deuxième pays, mon cher Kevin, avant d'arriver à Saint-Té il y a deux saisons. Merci, Étienne. Marocain, bien sûr. Ouais. Merci, Étienne. Il y a Mohamed qui nous attend aussi au 32-16. Ça, j'ai dû faire en 5 secondes, vas-y.
La vente, c'est super important. Il faut à tout prix, je vous disais déjà il y a 2 ans, il y a 4 ans, il y a 5 ans, il faut à tout prix que les deux clubs y vendent. Cette fois-ci, pas de blague. Il faut vraiment vendre le club aux Canadiens. Et autre chose, ça c'est plus destiné à Walid. Je suis très content de l'usage qu'il fait du terme yacht nature. Parce que j'en avais parlé dans un live Instagram, je lui avais parlé du bide Coad, Clément, Lemoine. Je lui avais dit que c'était des milieux yacht nature. Et je suis très content
de l'usage. Un peu dur.
Je suis fier de lui.
Le moine et haute nature.
Oui, c'est hors nature, le moine.
Bon, il y a un peu de sucre quand même. Non, c'est pas grand-chose.
C'est nature.
Non, mais le moine, c'est au moins skier.
Mais skier, c'est en dessous du hors nature.
Oui, bien sûr.
Skier, c'est en dessous. C'est au-dessus, c'est au-dessus ou en dessous?
Bah, c'est une meilleure qualité que. Ah, de quelle marque on parle, mais c'est-à-dire, c'est quand même quali, quoi. Ouais, c'est ton yaourt luxe au Franprix, au casino.
Oui, d'accord, ok, mais enfin, c'est
le yaourt grec.
Enfin, oui, d'accord, oui, enfin, oui, mais c'est la.
Un peu meilleur que le yaourt nature.
Ok, ok, d'accord.
Yaourt nature,
c'est le père fondateur des yaourts nature, faut le savoir.
Ah donc, attends, en train de nous dire que c'est moi, je t'ai volé
l'appellation.
C'est ça que t'es en train de dire.
Tout à l'heure, t'as dit, il y a Étienne, je suis très content de voir Walid qui a fait l'utilisation.
Ouais.
Parce que j'avais dit sur un live Instagram en 88.
Ouais, d'ailleurs, Étienne, il me l'avait dit, Walid, qui te l'avait piqué.
Bon, Étienne.
Je revendique la paternité des yachts nature et je suis très content.
Walid, d'accord, ok.
C'est bien ça.
Ouais, ok.
Bonne soirée, Étienne. À très vite.
Merci, Étienne.
Bon, dans un instant, à prolonger, parce qu'il y a beaucoup d'appels à ce supporter stéphanois soulagé, heureux ce soir. On va accueillir Mohamed qui sort du stade Geoffroy Guichard dans un instant. Vous écoutez l'After avec Kevin et Walid et puis on va parler de la finale de Coupe de France Lyon-PSG. À tout de suite sur RMC.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici au kiosque à pizza. Il dépose la boîte devant lui, il recule de 3 pas, il sort son téléphone, il se rapproche du QR code, il s'élance et c'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique.
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeu et même une voiture électrique. Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
L'afterfoot RMC avec Kevin Diaz et Walid Acharchour. On termine le débrief de la qualification de Saint-Etienne pour le barrage Ligue 1, Ligue 2, aux dépens de Rodez. J'accueille Mohamed qui sort de Geoffroy Guichard. Salut Mohamed.
Bonsoir les amis, ça va, vous allez bien ou quoi?
Mais bien, t'as encore un peu de voix, j'ai l'impression.
Est-ce que vous êtes chaud comme du chocolat chaud ou vous êtes froid?
On est ni chaud ni froid, on est content pour Saint-Etienne. En plus, t'imagines, moi, Bordelais, il y a une vraie amitié entre les ultra-bordelais et stéphanois. Donc, on souhaite que vous montiez.
Ce serait beau de revoir Saint-Etienne quand même en Ligue 1, non?
Oui, ouais. Mais à Metz aussi, il faut respecter Metz.
Oui, on respecte Metz.
Walid, je t'aime, mon frère. Voilà. Écoutez, bref, j'ai un petit message pour Walid, je t'aime beaucoup, je te suis. Je suis fan de vous, les gars, et en fait, l'émotion, là, elle a rien retombé, mais je pense que vous vous mettez à ma place. Saint-Etienne, on revient de loin. Vous vous rappelez au début de l'année comment c'était compliqué avec Batles? Il a fait du bon boulot un petit peu. Ensuite, Daloglio est arrivé et là on est remonté. On a été choqués. Nous les supporters, vous vous rappelez au début, je voulais faire, c'était vide. Hein. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu, mais
c'était
pas rempli. Hein. Et là, je sens un ferveur stéphanois. Les gars, j'étais au stade. Je vous jure, j'ai vu des gens pleurer. Alors vous allez me dire, oui, c'est du foot, c'est rien. Les gens, ils pleurent, il y a pire. Mais je vous jure, c'était des larmes.
C'est pas que du foot.
Non, c'est plus que ça pour Saint-Etienne aussi, pour l'autre club en France et l'autre peuple de supporters. Je précise, cinquième ou sixième match d'affilée à 34 000 spectateurs à Geoffroy Guichard.
C'est énorme.
Mais 34 000, ça c'est les données officielles, parce qu'il y en a beaucoup qui sont rentrés en plus. Mais je vous dis la vérité, c'était rempli. C'était rempli. Et en plus, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, le dernier match, ils nous ont déçus, mais on ne voulait pas, parce qu'on savait que c'était compliqué, que la pression stéphanoise, vous imaginez 35 000 personnes. Et là, ce soir, la vérité, moi, les émotions, la voix, elle y est encore, mais je veux dire, on a chanté, on a crié, on est derrière notre équipe. Contre Metz, Moi, le supporter stéphanois avant moi, il avait un peu peur. Moi, je suis à 70-30 pour les Verts. Parce que Metz, à part Mikotadze et Sabali, il n'y a personne qui me fait peur. Et même vous, vous savez très bien que c'est vrai. Metz, cette année, après, bon, c'est la Ligue 1, c'est autre chose. Mais je veux dire, les gars, Metz, à part Mikotadze, la vérité, moi.
Là, non, mais à part Mikotadze, en fait, Mikotadze, c'est un but, une passe par match. Donc, en fait, à un moment donné.
Oui, mais il n'y a pas que lui non plus. Voilà, effectivement, puis, c'est le joueur qui sort du lot, mais Van den Kerkhove. Voilà, les joueurs, quoi.
Il y a Van der Kerkhove qui peut faire ouais. Sur des transitions.
Après,
qui peut...
Metz, ça ressemble quand même plus à une équipe de Ligue 2 qu'une équipe de Ligue 1.
Oui, d'accord, mais donc, attention, sur les derniers matchs, ils étaient compétitifs. Ils menaient 2-1 contre Rennes avant de sombrer, d'accord, avec une grosse erreur d'arbitrage. La même chose pour le match contre Strasbourg. Ils mènent 1-0. Il y a un poteau de Mikotadze à la 80e minute et à la 89e, ils prennent égalisation.
Après, contre Strasbourg, ils mènent 1-0, mais ils dominent pas non plus.
Oui, d'accord, mais dans leur style, encore une fois, là, c'est quoi? On va pas leur demander un football champagne à Metz. C'est de se maintenir en Ligue 1. Et ça, moi, j'aime bien le terme compétitif. sur un aller-retour, tu peux être compétitif. Moi, j'aimerais bien que Saint-Etienne aille en Ligue 1. Mais ce qu'on a dit pour Rodez avec Kevin, là, à l'instant, tu vas avoir, 3 matchs en 10 jours, même pas, en 8 jours pour Saint-Etienne. Tu vas peut-être aussi le payer à un moment donné. La Metz, ils sont frais depuis la semaine dernière.
Ça fera 2 semaines et demie sans match, quoi, après.
Ouais, un peu moins. Tu peux régénérer les têtes.
10 jours.
10 jours. Donc, attention, il faut pas mépriser Metz parce que.
Ça reste un match où le match aller est très, très important.
Très important.
Parce que tu vas jouer devant ton public. C'est clair que si tu perds à domicile, ça va être difficile. Par contre, si tu arrives à faire un bon match devant ton public et arriver à prendre un petit peu d'avance, ensuite, Metz, c'est pas une équipe qui aime vraiment faire le jeu. Tu peux quand même arriver à les contrer.
Contrer au retour. Ouais, parce qu'à l'aller, ils peuvent te faire très, très mal. Ils vont t'attendre. Ouais. Et derrière, ça va à 10 000. Mikotadze, c'est avec tout le respect que j'ai pour Otondji et Corridor qui font une super saison en Ligue 2. C'est un mec qui doit aller aujourd'hui à Monaco ou dans d'autres clubs.
Justement, Walid, moi, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a deux joueurs à Saint-Etienne qui sont sous-cotés de ouf. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, mais la vérité, Aymen Wefek.
Ouais, il fait un bon match.
S'il vous plaît, les gars. Non, mais s'il vous plaît, les gars, il ne parle pas. Il est discret. Mais le boulot qu'il fait au milieu de terrain, les gars.
Oui, il a fait un gros match.
Ouais, il faut le voir, même sur la saison entière, il a pas lâché. Là, les Stéphano, apparemment, ils n'ont pas proposé de prolongation. Mais les gars, arrêtez. On va où? Il faut le prolonger, ce type. Cardona, c'est pareil. Cardona, bon, déjà partie de saison, il est là.
Mais ça va dépendre Ligue 1 ou pas, tu sais très bien comment
oui,
ça
oui,
se
oui,
passe.
Oui, Walid, oui, bien sûr, Walid, mais tu te rappelles Brest Cardona, Prime, hein, à l'époque, il était fort. Là, je vois Cardona.
Non, mais là, après, ce serait une question de moyens.
Bah oui.
T'as un mec là qui a un salaire de Bundesliga.
Ah oui, il prend 100 000.
Mais apparemment, Gazidis, il va reprendre. Là. J'espère de tout mon cœur. Je fais des rêves tous les soirs. Comme on dit chez nous, je crie tous les soirs pour qu'il vende le club. Moi, mon rêve, les gars, aujourd'hui, vous me dites, toi, c'est quoi ton rêve? Moi, mon rêve, c'est que l'ISS soit vendu. C'est tout ce que je voulais dire.
C'est très bien parti, Mohamed. Hein, d'ailleurs, je sais pas si t'as écouté l'after d'hier. Joyce Randall, hein, ouais. Grand supporter de la Saint-Étienne, était avec nous. Il a expliqué que c'était quand même très, très bien parti avec notamment l'investisseur Gazidis, là, ancien dirigeant du Milan, patron à Arsenal aussi.
Mais pousse, les gars, parce que vous êtes entendus dans mon entier.
Nous,
vous êtes entendus dans mon entier, s'il vous plaît. Vous êtes entendus dans mon entier.
Oui, Mohamed, mais merci, c'est vrai qu'on est entendu partout dans le monde. T'as raison. Mais nous, on peut pas faire grand chose à part relayer les informations que nous avons, mon cher Mohamed. Mais visiblement, ça va se faire. Hein, bon, faut toujours rester prudent.
Je vais mettre un tweet, Mohamed, là. Ça va se faire, t'inquiète pas.
Je vais faire une nouvelle story Insta.
Là, je mets une story, je vais pousser.
Ouais, il va mettre une lunette avec des verres verts.
Exactement, ça va tout changer. T'as pas vu,
moi, j'ai mis la chemise verte.
On est en vert partout.
Moi, je suis en chemise verte. Toi aussi, Kevin, on est là avec toi, Mohamed.
On est en vert.
Les gars, écoutez-moi. Si on passe le barrage, on passe le barage. Bon, je sais que vous viendrez jamais à Saint-Etienne parce que bon, Saint-Etienne n'a pas le football, on sait très bien qu'il
y a des
soucis. Si, moi, je suis une fois à Saint-Etienne.
Écoutez-moi bien, s'il vous plaît, je vous en supplie, écoutez-moi bien.
Vas-y.
Si on passe ce barrage, moi, je suis fils de boulanger. J'ai une boulangerie à Saint-Etienne dans un quartier arabe que tout le monde connaît, c'est Beaubras Tarentaise, c'est le quartier le plus connu de Saint-Etienne. Si vous gagnez, si on passe, si un jour vous venez à Saint-Etienne, venez, s'il vous plaît, me voir.
Avec plaisir, ma mère.
Les gars, je vous jure que les plus heureux. Même avec les moyens que j'ai, vous savez, j'ai pas beaucoup de moyens, mais.
Mais avec plaisir.
Et je vous aime beaucoup, je vous écoute de tout mon cœur.
Ah, merci, c'est gentil, Mohamed. Mais Mohamed, tu sais ce que tu feras? Tu sais ce qu'on dit? Si tu montes, là, en Ligue 1, ouais. Mais tu viens nous voir à Paris, tu viens voir le studio et voir Walid et
ça. Ah, ça, c'est beau, ça.
Mais c'est c'est mon rêve, je pleure là. Dis-moi pas ça, je vais avoir les larmes aux yeux.
Mais non, mais sincèrement, tu sais quoi, Mohamed. Laisse bien ton numéro au standard, oui. 32-16.
Eh ben, viens, ramène une boîte de chouquettes.
Adrien.
Eh ben écoutez, les gars, je vous ramène ce que vous voulez.
Mais par contre, on veut un pain au chocolat, chouquettes.
Mets un pain suisse, mets un pain suisse.
Écoutez, les gars,
c'est Paris-Brest.
Il y a du monde.
Mets un macaron framboise pistache et viens.
Il y a du monde qui attend derrière.
Je vais pas prendre la parole. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Je touche Mohamed. Nous aussi, on t'aime, Mohamed. À très vite. On espère te voir ici à Paris. Bonne soirée à toi. Même si ça passe pas pour Saint-Étienne, viens nous voir aussi à Paris, évidemment.
Parce que ouais, mais c'est mi-côté.
T'as remarqué qu'on s'est tous mis en vert. Vert pâle.
Ouais, vert pâle.
Et vert bouteille.
Moi, c'est moi qui ai le vrai vert, le beau vert.
C'est pas un vert Saint-Étienne, ça.
Moi, je suis mieux habillé aussi, on peut le dire quand même. Comme d'hab, le bouton.
Ta petite chemise velours là, tu crois que t'es comme.
C'est magnifique, cette chemise velours.
Non, mais tu crois que t'es.
On ferme le dernier bouton là.
Je suis pas frais là.
Les poils qui dépassent.
Venez voir sur Instagram, je vais faire une photo de moi. Allez, reste avec nous. Non, ça, j'ai gagné 8 followers, c'est énorme.
Ça fait longtemps, c'est pas, on ne fait pas une émission à 3 comme
on devrait, ça. On devrait faire ça.
Ouais, c'est vrai, c'est pas faux.
Allez, dans un instant, la finale de Coupe de France. Lyon-PSG, bien sûr. Pas mal de questions, d'infos aussi, les combos probables. On va parler de Mbappé, de la Cazette, des chances de l'OL. Reste avec nous, c'est l'after sur RMC.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot. RMC.
I am very happy to be in the big club Tottenham.
Welcome, Silvino. Are you okay? And are you happy to be?
They want to win here, you know, before. And after that, we will see. Or we'll go to fish. Huh?
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamin.
L'after avec Kevin Diaz, avec Walid Acharchour. Merci d'être avec nous à la radio sur RMC, également sur la chaîne YouTube de l'after. 160 000 abonnés. Vous êtes 1200 à nous écouter également sur YouTube. Tiens, bonsoir aussi à nos deux modos ce soir. Bam Bam.
Salut les modos.
Et Xavier Rennes qui sont là, fidèles au poste, solides à nos côtés. Bonsoir à tous qui nous écoutez. Amad le gamer, habitué, Idir qu'elle a tous les soirs également. Tiens, Cédric Sokovic qui dit Walid, dealer, c'est comment? Il n'y a pas sirop pêche ou melon ou quoi à l'after?
Ah oui, parce que mon sirop de citron avec. J'aime bien mettre un peu de sirop de citron.
Ah bon?
dans la cristalline.
Très bien, toujours un peu de sucre.
Ouais, toujours un peu de sucre.
C'est important.
C'est incroyable, ouais. Toi et le sucre, c'est une histoire d'amour.
Ouais, j'ai un peu de mal. Je crois qu'en plus, Daniel m'a dit ce matin que Flo Gautreau avait parlé un peu de mon hygiène de vie à l'antenne.
Bon, qu'est-ce qu'il en sait de
ton hygiène
de vie?
En disant que j'avais toujours été. Que je donnais jamais ma part.
Ah, il s'est permis ça, le garçon,
ouais,
là.
Ouais.
Mais lui, il est hygiéniste.
Ouais. Non, mais il... surtout qu'en plus, ce qui se passe, c'est que moi, jusqu'à 22-23 ans, j'étais.
J'étais comme Kevin.
J'étais maigre.
J'étais comme Kevin.
J'ai arrêté le sport, j'ai arrêté le foot, et derrière.
J'étais une olive.
Et la bouffe m'a tué, mais. Et j'envoyais des photos à Daniel ce matin pour lui prouver que.
Ah ouais, on est là, d'accord.
Fait, à 23, 24 ans.
Daniel, c'est ça. D'accord, ok.
Qu'est-ce qui s'est passé, ouais.
Le matin, à 8h, vous envoyez des photos de vous, c'est pas mal.
Non.
C'est intéressant de le dire.
Je voulais juste lui montrer, quoi.
Alors, Lyon-Paris, demain soir, finale de Coupe de France à Lille. Compo probable du PSG. J'en ai la compo probable de Lyon dans quelques minutes. Donnarumma, bien sûr, dans le but. Hakimi, a priori, je vais en dire plus sur Hakimi. Marquinhos. Un doute, Beraldo ou Skriniar, Mendes, Nuno Mendes, ZRMRI, Vitinha Ruiz devant la défense, Dembélé à droite, Barcola à gauche, Mbappé dans l'axe. Je disais donc doute concernant la titularisation d'Hakimi, hein, qui n'a plus joué depuis la défaite contre Toulouse le 12 mai. Ses relations seraient quand même très tièdes avec Luis Enrique, donc on ne serait pas étonné. Pour être clair, qu'il ne soit pas titulaire demain à Lille, mais a priori, voilà.
Attends, je comprends pas.
Qui débute.
Juste depuis le 12 mai. Comme Dembélé, comme Mbappé, comme la moitié de l'équipe, quoi.
T'es dans le groupe, lui.
Oui, d'accord, mais Dembélé.
T'es Mbappé, dans le groupe, il était sur le banc.
Mais ils n'ont pas joué contre Metz, Dembélé et Mbappé.
Tout à fait.
Donc pourquoi ce serait un argument d'autorité sur Hakimi?
J'ai pas que c'est un argument d'autorité. Enfin, selon nos informations, ouais, voilà.
D'accord.
Les relations sont pas hyper chaudes entre Luis Enrique et Hakimi en fin de saison.
Il va rejoindre Kylian au Real, si.
Je sais pas. Écoute, d'accord. On n'en sait pas plus. On va suivre ça.
Kylian va au Real.
Ah oui, c'est vrai que oui. On sait pas encore.
C'est quoi la phrase? Mais vous le savez déjà, non?
Ah, c'est ce qu'avait dit Faisal Amari.
Tout à fait.
Au sorti de.
Bon, Luis Enrique n'a donc pas joué avec le suspense. Mbappé sera titulaire, il l'a dit aujourd'hui en conférence de presse.
Est-ce qu'on peut le croire? Non, je plaisante.
Non, quand, alors là, franchement, là, ce serait un coup. Alors, là, tu vas retrouver Daniel dans un état, je pense.
Oui.
Si demain, il n'est pas titulaire après l'avoir annoncé en conf.
Bon. Il ne serait pas surpris, vu que Daniel et Stéphane, ils nous ont dit cette semaine qu'il ne serait pas...
C'était un pressentiment qu'ils avaient.
Non,
voilà.
Un pressentiment, pas une information, mais leur analyse, c'était ça. C'était
bon, et vous, êtes-vous surpris ou pas qu'il soit titulaire demain?
Bah non. Pourquoi? Je serais surpris, en fait. Je sais pas, Kylian Mbappé.
Mais parce que ça fait deux semaines qu'il a pas joué, ouais, parce que t'as le sentiment qu'il est déjà au Real.
Bah, comme Dembélé.
Parce que il est devenu, il est plus sur les réseaux peut-être que dans un quotidien de footballeur.
Si encore une fois, ça a été convenu par Luis Enrique de lui donner 2-3 jours de repos et de décompresser. Encore une fois, je vois pas pourquoi Luis Enrique ne ferait pas jouer Kylian Mbappé sur un match, sur une finale de Coupe de France contre l'Olympique Lyonnais. Après, si Luis Enrique, moi, je suis pas à sa place. Je vois pas les entraînements. S'il trouve que Mbappé est complètement cuit, qu'il a déjà la tête ailleurs, à l'Euro ou au Real Madrid, ok. Mais moi, je peux pas le deviner. Maintenant, si je vois qu'il y a un Mbappé titulaire demain, je suis pas, je suis pas sur les fesses. Non, je suis pas sûr.
En tout cas, tu peux reconnaître qu'il a pas mis dans les meilleures conditions pour jouer cette finale. En l'occurrence.
C'est-à-dire, pourquoi il a joué contre Toulouse?
Il n'a pas joué depuis le 12 mai, Mbappé. Ouais, voilà, deux semaines sans jouer. Mais voilà, c'est pas forcément la meilleure
chose. Mais deux semaines sans jouer. Il y a eu quoi entre temps? Il y a eu le match contre Metz.
Walid,
il les a fait reposer un match.
Tu peux pas dire non. Moi, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il doit jouer demain. Mais on peut quand même s'entendre sur le fait qu'aujourd'hui, la gestion de Kylian Mbappé, elle est quand même très, très particulière depuis trois mois maintenant.
Toi, tu pensais qu'il allait jouer le match contre Metz sur un match qui vaut rien.
Mais c'est pas ça, tu le concernes. Au moins, il est dans le groupe. Au moins, il peut entrer en jeu peut-être. Il est pas à Cannes, passer le week-end. Voilà.
Moi, je tiens à dire que je ne suis pas en train de critiquer Luis Enrique.
Non,
mais il y a quand même des choses qui sont dures à comprendre. Kylian Mbappé, il a joué contre une R1 en Coupe de France. D'accord?
Oui.
Donc, il peut jouer contre Metz, en fait.
Oui.
Tu vois ce que je veux dire? Donc, à partir de là, avant son annonce, il jouait tous les matchs, des matchs qui n'avaient ni queue ni tête, des matchs en R1. Il l'a fait l'année dernière, Pays de Cassel, cette année.
Enfin, il était pas là, Luis Enrique, Pays de Cassel.
Peu importe. Peu importe qu'il ne soit pas là.
Oui.
Je dis que Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, peu importe l'entraîneur, jouait tous les matchs. Et cette saison, avant l'annonce à son président, il jouait aussi tous les matchs.
Oui.
Donc, après cette annonce, ça n'a plus rien eu à voir avec ce qui se passait avant.
Ah oui.
Donc aujourd'hui, on ne sait plus.
Après, il y a une réflexion.
Exactement.
Quoi.
La stratégie de Luis Enrique. Est-ce qu'il a voulu le préserver pour la finale? Est-ce qu'il a voulu le carrer parce que il a pensé qu'il voulait partir?
Toi, tu l'aurais fait jouer contre Toulouse et contre Metz.
Non, mais en fait, c'est pas la question de moi là en l'occurrence. C'est la question de ce qui se passe avec Mbappé depuis qu'il est au PSG. Depuis 2 ans, pour pas dire avant, il joue tous les matchs. Dès qu'il peut jouer, il joue. Et là, Enrique est parti dans un truc. Il nous a quand même dit, il voulait préparer la saison prochaine. Si je suis l'avocat du diable, je peux te demander pourquoi il prépare pas la saison prochaine en essayant de gagner la Coupe de France sans Kylian Mbappé. Je ne dis pas qu'il doit le faire. Je ne dis pas que ça me surprend qu'il ne le fasse pas.
Mais
il a eu aussi un discours. C'est quand même lui qui nous a dit ça. C'est pas nous qui lui avons demandé. C'est lui qui a dit, on prépare la saison prochaine. Kylian Mbappé sera pas là. Maintenant, c'est officiel. Un journaliste peut se demander, tiens, est-ce qu'il jouera
demain? C'est un match très très important.
Mais peu importe, tous les matchs sont importants.
Non. Le match contre Nice et contre Metz, par exemple, il est pas aussi important que le match contre l'Olympique Lyonnais.
Non, mais ça, je suis d'accord. Bien sûr que gagner un trophée, c'est plus important.
Voilà.
Mais il y a eu des matchs où, et là, je suis
tous
d'accord.
Les gros matchs, tous les gros matchs du PSG, tous les gros matchs du PSG, Mbappé a démarré. Tous les gros matchs.
Walid, je suis désolé. On, encore une fois, moi, je veux pas critiquer Enrique. Mais quand, par exemple, Eric Dimeco dit un joueur a besoin de jouer des matchs pour être en rythme et performer, c'est une réalité aussi. Alors, on va me dire, oui, mais des fois, Guardiola, il fait tourner. Oui, mais c'est anecdotique. Il n'a jamais autant fait tourner des joueurs que Mbappé a dû être sur le banc.
Mais il a eu le même traitement pour d'autres joueurs qui vont pas partir. Ousmane Dembélé, regarde la gestion d'Ousmane Dembélé dans les petits matchs entre les gros matchs. Ça a été la même chose.
C'est pour ça que je te dis, je ne parle pas uniquement.
C'est sa gestion.
Je ne parle pas uniquement de la gestion de Mbappé. Je parle de la gestion globale de l'entraîneur sur un joueur comme Mbappé. Si tu veux, je peux englober Ousmane Dembélé. Au vu en plus de leur prestation quand même très moyenne, pour pas dire médiocre, notamment dans les matchs qui ont compté en Ligue des Champions.
Non mais par exemple,
tu peux te dire que cette gestion, c'est peut-être pas la meilleure.
Qu'est-ce que tu réponds sur par exemple Ousmane Dembélé qui depuis Dortmund a joué 30 minutes.
Je trouve pas ça normal.
Non mais d'accord, on peut y aller là-dessus.
S'il a pas de blessure, on ne connaît pas.
Qui a joué 30 minutes contre Toulouse, d'accord, et qui n'a pas joué une minute contre Nice et contre Metz.
Alors toi, quelle est ta lecture de ça? Comment tu l'expliques?
Mais moi, encore une fois, parce que je pense que peut-être que ces deux joueurs-là, ces deux stars-là, il a eu envie de les régénérer avant ce rendez-vous là. Mais c'est vrai que moi en fait, ce qui m'intéresse dans ton discours, c'est que sur Mbappé, tu dis qu'il a eu une gestion.
Parce qu'on nous demande sur Mbappé.
Il a eu une gestion différente. Mais en fait, ça englobe Dembélé, ça englobe Hakimi, parce qu'on vient de faire un débat sur Hakimi. Donc si toute la gestion de Luis Enrique te dérange, je peux aller vers toi.
La question que me pose Nico, c'est sur Mbappé à la base. Donc je réponds sur Mbappé. Si tu veux englober Dembélé, je peux te tenir le même discours avec Dembélé. Mais Mbappé, le problème que j'ai, c'est que avant son annonce du mois de février, il n'y avait pas cette
discussion. Mais encore une fois, après l'annonce,
il y a deux choix. Ou alors c'est peut-être parce qu'on arrive sur la fin de saison. Attends, je finis. Peut-être qu'on arrive sur la fin de saison et que Enrique aurait géré de toute façon comme ça Mbappé.
Ça, on ne le saura jamais.
Ça y ressemble
pas. Kevin, il y a deux choses. La première chose, c'est ce que tu viens d'expliquer. C'est que les échéances très très importantes étaient beaucoup plus se rapprochait pour le Paris Saint-Germain, et je pense que quoi qu'il arrive, comme pour les gros clubs, on l'a vu avec Vinicius, on l'avait vu avec Bellingham, t'as une gestion qui est différente. Tu vas pas jouer contre Nantes le match après la Real Sociedad, tu vas pas jouer contre Lyon le match après le Barça, avant, etc. T'as une gestion, et je pense qu'il l'aurait fait quoi qu'il arrive, qu'il aille au Real Madrid ou pas. C'est mon sentiment. J'ai pas la vérité absolue, mais c'est mon sentiment. La deuxième des choses, c'est que oui, quand un joueur part libre, t'es directeur sportif, tu côtoies des directeurs sportifs. C'est l'histoire du football. Oui, il y a des choses qui changent. Moi, demain, si j'annonce à Nico Jamain, je fais plus Génération After l'année prochaine.
Je serai triste.
Hein. Non, mais au-delà d'être triste, nos rapports vont changer. Et peut-être que mon planning du mois prochain va peut-être un peu changer aussi. C'est comme ça. C'est l'histoire des entreprises. C'est l'histoire du football. Le nombre de joueurs qui le nombre de joueurs qui n'ont pas prolongé et qui ont été au placard complet toute une année, je peux t'en citer 18 000.
Ok, c'est un fait. Mais c'est une gestion normale et intelligente, ça. C'est comme si moi tu m'annonces, effectivement, en avril. Du coup, j'ai la génération after. Bah, Walid, on te sort du planning en mai.
Bah, on te sort du planning, mais tu seras un peu moins important. Mais tu seras un peu moins important, tu vas essayer d'autres mecs.
Oui, mais je te fais encore jouer.
Tous les gros matchs, il les a joués, Mbappé. Sauf qu'il y a des matchs un peu moins importants où tu auras une gestion différente.
Walid,
c'est la vie, c'est comme ça.
J'entends ton.
Et Mbappé, il l'a choisi, ça, à un moment donné.
Non, écoute, j'entends ta comparaison, mais je suis désolé, elle ne peut pas s'appliquer pour un joueur de haut niveau. Parce qu'un joueur de haut niveau, contrairement à toi, toi, si tu fais pas d'émission pendant deux semaines, tu vas peut-être être frais et tu vas peut-être avoir d'autres arguments. Et tu vois, quand tu rentres de vacances, c'est toujours un peu plus frais.
Ouais.
Mais un footballeur, c'est pas ça.
Oui, d'accord, mais...
Un footballeur, il a besoin d'une préparation, il a besoin d'enchaîner les matchs, il a besoin d'avoir des minutes, il a besoin de répéter les sprints, de répéter les efforts pour ensuite être meilleur. Sinon, on s'entraîne pas et puis on attend juste les grosses échéances du mois de. J'exagère, mais on attend juste les grosses échéances du mois de mars, avril, mai et puis on fait jouer les joueurs que pour les matchs importants. Mais ça n'est pas comme ça que ça fonctionne.
Alors, Kevin, moi je peux te rejoindre sur le fait que Luis Enrique, il a une gestion qui est particulière. Il y a pas de souci, mais ça ne doit pas expliquer la saison de Kylian Mbappé.
Ça l'explique pas, mais ça lui donne des arguments. Si un jour il me dit, moi franchement j'ai manqué de rythme sur mes 6 derniers mois au PSG.
Mais Kevin, quand tu regardes, attends,
Walid, laisse-moi finir. Si un jour, je ne sais pas, il fait une interview et il dit, comment vous jugez votre dernière année au PSG, les 6 derniers mois, on vous a recroché de. S'il dit, franchement, Luis Enrique, je n'avais pas de problème avec lui, mais sa gestion, elle a été particulière, elle a été différente par rapport à ce que j'ai connu depuis le début de ma carrière, où je suis quelqu'un qui aime jouer tous les matchs, qui aime enchaîner et avoir du rythme. Et j'ai senti que j'avais un peu moins de jus, ou je sais pas pourquoi, mais j'ai senti que j'étais moins bien. Il faudra l'accepter, Kevin, ou pas?
Moi je l'accepterai pas.
Mais pourquoi tu l'acceptes pas?
Parce que je vais te dire.
C'est un fait.
Mais je vais te dire. Parce que la première partie de saison, il a tout joué. Et que la première partie de saison, elle est pas bonne. Que ça fasse deux poules, elle est pas bonne.
Mais il est meilleur
Attends, je vais te dire. Et un autre truc. Le meilleur match qu'il fait, c'est le match contre la Real Sociedad. Au retour.
Il a trois éclairs, mais c'est pas non plus.
Ah, c'est l'un de ses meilleurs matchs en Ligue des Champions cette saison.
Oui, d'accord. Très bien.
Donc, il a eu beaucoup de matchs accumulés en phase de poule. Si tu regardes bien, il joue tout. Les matchs de poule, ils sont pas bons du tout. Au Milan, il est pas bon. À Newcastle, il est pas bon. Et je me rappelle, on faisait des articles à l'époque en disant, oui, mais il paye son manque de préparation. Il doit se régénérer.
Se régénérer. Mais c'est pas faux ce que ces articles-là.
D'accord, ok, bah c'est pas faux. Mais on trouve toujours des excuses en fait.
Non, mais là, c'est pas
quand il joue moins. Je me rappelle. rappelle, Kevin, et je termine là-dessus, les deux matchs amicaux contre l'Allemagne et contre Chili, notamment, il fait 90-90, et on avait dit, pourquoi il joue pas un peu moins contre le Chili, etc. Il avait pas été bon du tout, on dit, il est soiré, il est fatigué, ou il a pas envie. Quoi qu'il arrive, c'est la boîte à excuses. Non. Quoi qu'il arrive. Non, tu connais la boîte à questions sur Canal Plus, on a la boîte à excuses sur Kylian Mbappé à chaque fois.
Non, mais tu sais très
avant
bien.
Avant Dortmund, il joue Lorient, il joue 90 minutes, il joue une mi-temps contre Le Havre, il joue deux fois 90 minutes contre Dortmund.
Je suis très souvent d'accord avec toi et tu sais très bien que je ne suis pas celui qui a été toujours tendre ou toujours complaisant avec Kylian Mbappé, loin de là.
Bien sûr.
D'accord. Je rappelle, et d'ailleurs, avant qu'il s'en aille, je vais rappeler quand même qu'il y a 4 ans, j'avais conseillé au PSG, pourquoi pas de vendre Kylian Mbappé et d'acheter Minson et Barella qui étaient au top de leur top de leur top.
Kevin.
Et je suis pas sûr qu'ils auraient pas eu des meilleurs résultats.
Ça, on n'a pas oublié, Kevin. On n'oublie jamais rien, on n'oublie jamais rien.
D'accord.
Dis-nous ce soir.
Juste, ce soir. Quand quelqu'un qui veut défendre ou qui veut expliquer la mauvaise saison d'Mbappé te parle de sa préparation tronquée, te parle d'une gestion différente par rapport à ce qu'il a connu, c'est aussi réel. Je ne sais pas si c'est une excuse, mais c'est factuel. C'est une réalité que ce n'est pas forcément la boîte à excuses, mais ce sont des choses qui peuvent permettre d'expliquer.
Il l'a voulu, ça.
Peu importe qu'il ait voulu ou pas, les faits font que...
Il l'a voulu, l'histoire du foot, c'est que tu pars pas libre la dernière année.
Bon les gars, on fait une pause, on va pas refaire
c'est l'histoire du foot, le football il a changé, il a changé pour lui cette
l'histoire
année.
L'histoire de Mbappé, en revanche on écoutera dans un instant Manu Petit qui a été hyper, hyper sévère à l'encontre de Kylian Mbappé tout à l'heure dans Rotten sans flamme. On écoutera Manu, on accueillera surtout Jean-Jacques également, supporter du PSG au 32-16. Restez avec nous, c'est l'After avec Kevin Diaz et Walid Acharchour, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Walid Acharchour, merci d'être avec nous sur RMC en direct sur la chaîne YouTube de l'After. On parle de la finale de Coupe de France, on va donner les infos compo probables lyonnaises dans un instant, bien sûr, et parler de l'OL. Soyez rassurés, supporters lyonnais. Mais d'abord, j'accueille Jean-Jacques au 32-16, supporter du PSG. Salut Jean-Jacques.
Bonsoir messieurs.
Bienvenue dans l'After. Allez, on va t'accueillir Jean-Jacques avec Kevin et avec Walid. On parlait de Mbappé, toi. Est-ce que tu es surpris de savoir, d'apprendre aujourd'hui qu'il va être titulaire, qu'il va débuter demain soir contre Lyon?
Oui, je suis surpris parce que en fait, j'arrive plus à comprendre la gestion et le management.
Attends, Jean-Jacques, je te coupe. Est-ce que tu es en kit main libre avec des écouteurs ou pas? Non.
Pour donner mieux là.
Ou un haut-parleur. Vas-y.
Ouais, je disais donc moi, je suis un petit peu surpris par la gestion et le management. Mise en place par Enrique. Moi, Mbappé, je l'aurais fait différemment sur deux points. Je me dis, il se barre, et ben jusqu'au bout, je le fais jouer 4 ans à 10 minutes. De toute façon, j'en ai plus rien à faire. La saison prochaine, il est plus là. Donc, je l'use tant que je peux l'user, et tant que je l'ai, j'en profite. J'aurais joué ça comme ça. Et après, le deuxième point, c'est... un Mbappé concerné, il va pas à Cannes. Je me souviens encore de ses sorties, même si, encore une fois, moi, je juge pas, il fait ce qu'il veut de son temps libre, il n'y a aucun souci là-dessus. Mmh. Mais je me souviens encore de ses sorties quand il disait, voilà, là, on prépare des matchs, il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de poker, on va dormir, ou je sais plus trop quoi.
On va bien dormir, on va bien manger, c'est
il
ça.
Il faut bien manger, bien dormir.
Bien manger, bien dormir.
Et ce Mbappé-là, il se permettait pas, entre guillemets, d'aller à Cannes ou de se faire voir à Cannes de manière visible et publique comme ça. Donc tu sens plus le mec, entre guillemets, d'une certaine manière un peu concerné.
Après, donc, ça date pas d'aujourd'hui. Hein. C'est-à-dire que au-delà des sorties, hein, même son implication, les échos qu'on a sur.
Oui, il a un peu plus kiffé sa vie à côté cette saison.
Non, mais même aussi. Au-delà, à côté, même sur son implication à l'entraînement, à des moments de la saison, on n'avait pas le Mbappé qu'on a eu sur certaines années. C'est une réalité.
Donc, Walid, c'est pas possible, t'as un drone au-dessus du campus.
Il n'y a pas besoin d'avoir un drone, je peux dire, dans Paris pour savoir ces informations.
Vas-y, Jean-Jacques.
Non, mais du coup, voilà. Moi, je me serais dit, dès le départ, j'aurais été Enrique, j'aurais dit, ok, écoute, bonhomme, je vais t'exploiter, entre guillemets, jusqu'au bout. Je t'use tous les matchs. Il n'y a pas de gestion de repos ou de quoi que ce soit, puisque de toute façon, on n'a plus à penser à l'année suivante. Tout ça, je te fais jouer. À partir du moment où tu laisses ce temps de repos, tu le laisses, entre guillemets, s'évader plus qu'il ne s'est évadé tout au long de la saison, je vois pas pourquoi tu le fais jouer de la finale ou tu le mets titulaire. contre.
Non, mais ce serait aussi un gros problème après, tu sais, les médias, machin.
T'en fous, après la saison est terminée.
Non, mais s'il la perd
quand même la finale sans Mbappé. Non, honnêtement, je pense que même si c'est un entraîneur de caractère, je pense qu'il faut bien.
C'est pas dans son intérêt, Lucien Riquet.
Ouais, je vois pas quel intérêt il a.
C'est du business. Aujourd'hui, Lucien Riquet, s'il peut le mettre, et on l'a bien vu, hein. Moi, je l'ai beaucoup défendu, Lucien Riquet, mais contre Dortmund, quand il a été très très mauvais, il l'a pas sorti.
Ouais, moi, je crois
qu'il allait sortir.
En plus, donc, il était vraiment en dessous.
Donc, Mbappé, c'est un but sur ces 4 derniers matchs.
Non, mais par contre, attention, Nico. Si tu me dis.
Oui, mais on n'a pas Mbappé, si tu veux.
Non, mais par contre, attention. Nico, si tu me dis aujourd'hui que Kylian Mbappé a totalement lâché, il est ailleurs, etc., et que moi,
qui te dit ça ?
Non, si Nico me le dit, enfin, si je le sais, là oui, ma réflexion.
Mais évidemment, on sera tous d'accord.
Là ma réflexion
débat,
est différente. Mais moi, aujourd'hui, je peux pas. Aujourd'hui, je peux pas le savoir, malheureusement. Mais oui, si demain il y a une réflexion où Luis Enrique il le met sur le banc parce qu'il estime qu'en fait, au final, que le mec depuis un moment déjà.
Mais je pense qu'actuellement, il fait pas tout pour être prêt. Ce qui n'exclut pas qu'il fasse une grande finale demain soir pour autant.
Oui.
Il y a eu beaucoup d'épisodes là depuis 10 jours.
J'espère pour lui.
Les week-ends à Cannes, la soirée de départ au resto avec tous ses potes.
Après les week-ends. Oui,
mais voilà, tu veux. Non, mais je le reproche pas en réalité. Il a voulu kiffer, voilà.
Il a envie de. Après, le seul problème en fait de Mbappé,
c'est qu'en fait. Mais t'as quand même le sentiment, même dans sa communication.
Le problème de Mbappé, c'est que il y a eu des déclarations bien dormir, bien manger, qu'il était.
Oui, c'est ce que dit
Jean-Jacques. Tout le monde a dit qu'il était irréprochable, etc. C'est marrant de voir que finalement, il est comme tout le monde en fait, à un moment donné. Quand il faut relâcher, quand il va. Ah oui, c'est un joueur de foot.
C'est pas Cristiano Ronaldo.
Voilà. Donc voilà, il est. Donc ça le fait. C'est encore une fois sa communication qui remonte. Mais comme sa communication où chez Jérôme Rothen, à l'époque, il avait dit en 2021, moi je partirai jamais libre de ce club, il faut que je laisse, etc. Voilà. Et malheureusement, il y a plein de déclarations qui remontent à la surface.
Non, mais ça, je suis pas d'accord avec toi. Parce que. Non, mais là, il y a des choses, Walid, où des fois tu vas dire un truc en 2021.
Oui. Après, on dit, il maîtrise ça comme, il est parfait, etc.
Non, mais attention, il y a un moment, il a voulu partir. Non, mais je peux pas te laisser dire ça parce qu'il a voulu partir. Leonardo voulait le vendre. Mais le club n'a pas voulu.
Oui, mais pourquoi le club n'a pas voulu? Parce que le club était.
On va pas faire l'histoire 2021.
Tu refais pas le débat, mais c'est toi qui refais le débat.
Je mercredi, Jean-Jacques.
Non, je te parle de libre. L'année dernière, il aurait pu partir.
On l'a fait mille fois ce débat. Merci Jean-Jacques. Bonne finale à toi demain soir.
Avec une indemnité.
À très vite sur RMC. Tiens, bonne soirée. Tiens, écoutez Manu Petit, qui, j'allais dire, a pété un plomb chez Jérôme. Je pense pas. Je pensais maîtriser. Il a donné son sentiment sur l'homme qui est Mbappé. Écoutez.
On a marre de tout ça, quoi. Essaye de te recentrer, essaye de descendre un petit peu d'un nuage, de reprendre une certaine humilité comme tu avais au début de ta carrière, parce que c'était rafraîchissant et j'étais ton premier supporter. Aujourd'hui, tu me fatigues. Si je pouvais même t'amener moi-même à l'aéroport pour que tu ailles à Madrid, je le ferais sincèrement, tellement il me saoule. Voilà.
Et donc,
demain, il risque.
C'est ce que je disais.
S'il fait un trophée, qu'il fait un grand match, au moins, il sauvera justement toutes les semaines pourries.
L'hommage qu'il a eu la semaine dernière, ça a été ridicule.
Mais c'est
pas une critique envers Kylian Mbappé, ni envers le club. Je me dis, voilà, il y a deux énormes égaux en face.
Et pour en revenir à Lucien Riquet, quand il dit, oui, bien sûr, demain il jouera, bien sûr. Et c'est une façon aussi ironique, c'est de dire, voilà, demain, vous verrez bien ce qui va se passer. Moi, j'ai presque en dire parce qu'il a dit une phrase, pour moi, celle-ci est importante. Il a dit, ceux qui auront envie. Et j'ai pas le sentiment que ces dernières semaines, j'ai vu Kylian Mbappé avec une grosse ambition, une grosse envie. Donc, si j'en tire.
S'il va au bout de la logique,
il joue pas demain.
Mais en fait, je comprends pas, Jérôme. Il veut que Mbappé, j'ai le sentiment, Jérôme, Stéphane ou Daniel, ils ont envie que Mbappé soit sur le banc. Pour derrière, en fait, si ça se passe mal, voilà, la gestion, etc. J'arrive pas à comprendre. Oui, s'il doit aller jusqu'au bout de sa logique par rapport à sa communication, il doit aller sur le banc. Mais non, mais si Luis Enrique demain il a envie de faire jouer Kylian Mbappé parce qu'il va lui faire gagner un titre en plus, parce que c'est que du business, parce que c'est ce qu'on nous a expliqué nous l'année dernière, Nico. On nous a dit arrêtez les sentiments et arrêtez les émotions de supporters, observateurs. C'est du business. Il y a un contrat, il va aller jusqu'au bout de son contrat. Il a tous les droits. Mais Luis Enrique, il a aussi tous les droits. Maintenant, vous voulez qu'il soit dans le sentiment avec Kylian Mbappé depuis qu'il a décidé d'aller au Real Madrid.
Qui a dit ça?
Non, en gros, oh, il est très très dur, Luis Enrique, avec Kylian Mbappé, etc. Regardez, il l'a pas sorti avant la 90e. Voilà, en gros, Luis Enrique, c'est un connard, quoi. C'est un mec. Non, mais si, c'est ce qu'on entend.
Je pense pas que Daniel dit que Luis Enrique aurait dû le sortir.
Il a pas de sentiments avec Kylian Mbappé. C'est un mec très très froid. Est-ce que Kylian Mbappé a eu des sentiments envers le Paris Saint-Germain sur les derniers mois? Non. Donc voilà, c'est du business entre les deux, et ça va se terminer comme ça. Ça va se terminer comme ça demain, où chacun fera son boulot, et à la fin, le PSG gagnera une Coupe de France ou non, et on jugera à la fin. Et pour Manu Petit, moi je le disais, il y a un an et demi, ce qu'il vient de dire Manu Petit. Il y a un an et demi, moi déjà il me saoulait avec le pivot gang l'année dernière, où tout le monde me traitait de fou, où je disais mais il se prend pour qui, etc. Avec toutes ses déclarations sur Instagram, toutes ses piques, etc. Toute sa communication, déjà moi il me rendait fou. Donc c'est pas le 24 mai 2024 que ça va changer.
Honnêtement, depuis 3 mois. Qu'est-ce que t'as à reprocher à Kylian Mbappé depuis 3 mois?
Bah, ses performances sur le terrain, son attitude.
Attends, ça, c'est une chose.
C'est le plus important, ouais.
Non, mais les sportifs, on t'a expliqué que ça peut aussi s'expliquer. Mais en fait, dans les déclarations, l'attitude,
les profils bas, plutôt.
Ouais, il fait profil bas. Mais moi, aujourd'hui, au trophée NFP, j'ai dit qu'il avait fait un super, discours.
Contrairement à ce que dit Manu, je trouve que sur les dernières semaines, on n'a pas grand chose. On n'a pas grand chose à lui reprocher. À un moment, le pivot gang et tout,
ça double confrontation contre Dortmund, ça.
Voilà, les gars.
Ça reste du sportif.
La compo probable de Lyon, les amis. Lucas Perry, ça se confirme, sera titulaire demain. Mata, O'Brien, Chalet-Tatsar, Taliafico, Matic, Cherki, Kakré, Tolisso, Benrahma, Lacazette. Voilà pour le 11 lyonnais très probable. On fera un gros avant-match demain soir, bien sûr, avant la finale. On parlera de Lyon, on écoutera Alexandre Lacazette, notamment, qui lui estime qu'il a déjà assuré l'essentiel, qu'ils ont assuré l'essentiel. Mais bon, on sent bien avant cette finale. Reste avec nous dans un instant. On va parler de Lens aussi sur RMC dans l'after avec Kevin Diaz et Walid. Révolution totale au Racing Club de Lens. Est-ce que vous y comprenez quelque chose? Reste avec nous, c'est RMC, c'est l'after.
La séance des tirs au sort va bientôt débuter ici au kiosque à Pizza. Il dépose la boîte devant lui. Il recule de 3 pas. Il sort son téléphone. Il se rapproche du QR code. Il s'élance. Et c'est scanné. C'est scanné. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Il gagne une voiture électrique!
Jusqu'au 14 juillet, rendez-vous dans votre kiosque à pizza pour tenter de gagner des pizzas, des consoles de jeu et même une voiture électrique! Voir conditions et règlements du jeu sur lekioskeapizza.com. Pour votre santé, bougez plus!
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Walid Acharchour, on est ensemble jusqu'à minuit, c'est l'after, bien sûr. Tiens, avant de parler de Lens, quelques infos à vous donner. Le FC Nantes avait levé l'option d'achat de Mathis Sablin. Mauvaise nouvelle pour les Nantais qui fait une très bonne partie de saison.
Il revient à Rennes.
Rennes a utilisé sa clause de rachat. Donc il revient à Rennes.
Combien là? Non, c'est pas.
Non, je l'ai pas, j'ai pas le chiffre. Terrible, hein.
Ouais.
C'était le jeu après, hein. Tu connais, hein, les clauses de contrat, on vous le prête, ils performent chez eux, Rennes en profite et grâce à cette clause de rachat peut le récupérer. Bon, puis ça, vous avez appris ça aujourd'hui aussi. Joan Laporta a confirmé le départ de Xavi, hein, du FC Barcelone. Hansi Flick devrait lui succéder, l'ancien entraîneur du Bayern et de la Nationalmannschaft. Puis l'AC Milan a confirmé le départ de Stefano Pioli. Ça nous intéresse puisqu'a priori le club italien est au taquet sur Paulo Fonseca. Ça pourrait aller évidemment très vite. Lui aussi est en fin de contrat.
On demandera à Paulo Breitner quand même pour cette histoire de Vincent Kompany. Je ne sais pas si vous lui avez déjà demandé.
Encore moi en tout cas.
Mais ce serait quand même très surprenant. Vincent Kompany au Bayern, c'est certes très grand joueur, peut-être très bon futur entraîneur, mais là quand même tu descends.
Il a fait une très mauvaise deuxième saison. La première était plutôt bonne.
Première était bonne, mais bon, en championship quoi.
Tout à fait.
Ce serait quand même dingue.
Bon, et puis The Athletic révèle aujourd'hui que John Textor chercherait à vendre ses parts de Crystal Palace et à acheter Everton. Nos confrères de l'équipe l'ont contacté. Il a confirmé la volonté de céder ses parts de Crystal Palace, mais pour l'instant, les déclarations selon lesquelles il cherchera à acheter Everton sont excessives. Donc ça veut dire qu'il y a un début de quelque chose quand même, tu vois. Voilà.
Franchement, j'ai tellement de mal avec la multipropriété.
Botafogo, Molenbeek, Lyon, peut-être Everton. Voilà, on verra. Ça peut impacter l'avenir de Lyon aussi. Attention.
On va suivre.
On va suivre ça avec intérêt. C'est la révolution à Lens. En quelques heures, quelques jours, on apprend l'éviction du directeur sportif Frédéric Hébert. L'arrivée d'un nouveau chef de la cellule de recrutement en provenance des Girondins de Bordeaux, Diego Lopez Gomez. Le départ du directeur général Arnaud Pouille, arrivé en 2017, homme central dans la croissance, dans le retour au plus haut niveau, sur le devant de la scène du RC Lens. Et un très gros doute sur l'avenir de Franck Haise. Selon certains médias, il devrait quitter Lens aussi. On va être plus prudent ici pour l'instant. Il pourrait donc suivre l'ensemble de ses départs. Walid, justement, tu voulais en parler ce soir car tu ne comprends plus rien à ce qui se passe à Lens, à ce que fait Joseph Gourlian. Jingle, Walid.
T'essayes encore une fois de me, comment dire, de me carotter.
Ça devait être Kevin Jazz, ça, encore.
C'est bon, c'est sûr.
Tu restes certain.
Alors.
Oui, je ne comprends plus ce que fait le RC Lens et je voulais qu'on en parle, je voulais qu'on fasse un gros dossier là-dessus parce que ça fait quand même plusieurs fois dans Génération After qu'on essaye de mettre un petit peu des lanceurs d'alerte sur ce qui est en train de se passer, sur ce qui se passait, sur le chamboulement et les changements au RC Lens et on est en plein dedans là sur la fin de saison et je suis très inquiet, je suis très sceptique des choix que Lens est en train de faire et notamment son président Joseph Gourlian, même si il a souvent fait du très très bon boulot au RC Lens, mais la tournure des événements là m'inquiète terriblement, surtout sur l'aspect d'un départ d'Arnaud Pouille et de Franck Haise. On ne sait pas ce qui va se passer hein, parce que Lens et Gourlian veut encore retenir Franck Haise, mais avec ce qui est en train de se passer, on est sûr de rien. Et je voulais juste un peu revenir dans la chronologie de ce qui s'est passé à Lens et de ce qui se passe à Lens dans les bureaux, parce qu'on est focus sur le sportif, sur ce qui s'est passé cette saison, la victoire contre Arsenal, le fait d'avoir été reversé en Europa League, le match contre Fribourg, le fait de jouer le top 5 et finalement l'abandonner et donner la place de la 6e place à Lyon sur le dernier match. Mais dans les bureaux, ça a énormément bougé. Et je vais le faire, notamment sur ces fameuses luttes d'influence, depuis le départ de Gisolfi. Donc il y a 16 mois en 2022.
18 mois.
Voilà, 16-18 mois. C'est Grégory Thil qui avait récupéré notamment son poste. Le dernier mercato de Grégory Thil n'avait été jugé insuffisant. Notamment le dossier Lévy Garcia de la EK Athènes avait beaucoup trop tardé. Lévy Garcia finalement avait prolongé. Ils ont finalement surpayé Liwayi. L'histoire de Spearings notamment qui a été une erreur de casting et qui était reparti à Toulouse. Donc Grégory Thil derrière est parti. Entre-temps, il y a eu aussi Samir Chama qui était un élément très important de la cellule de recrutement, qui est aussi parti. Haise qui entre-temps a abandonné son rôle de manager parce qu'après le départ de Grégory Thil, il avait pris un peu plus de pouvoir.
Ça c'était déjà très étrange.
Oui, il avait pris un peu plus de pouvoir dans le club, notamment dans un rôle de manager un peu à l'anglaise. Finalement, un mois ou deux, j'ai pas forcément le timing précis, mais il rétropédale en disant qu'il est un peu fatigué, qu'il va se reconcentrer sur l'équipe première. Il y a l'arrivée de Mike Modeu. Une arrivée lunaire où en fait
une non arrivée
parce que quand il arrive il veut être dans la cellule de recrutement Chief Scout, une cellule de recrutement où le directeur de recrutement était Fred Hébert qui venait d'arriver du PFC pour remplacer Grégory Thil et ni Pouille ni Gourlian avaient précisé l'arrivée de Mike Modeu et quand Mike Modeu arrive en fait Fred Hébert se renseigne finalement sur qui est ce monsieur sur son CV et il se rend compte en fait qu'il a un peu gonflé son CV donc ça prend une ampleur médiatique dingue. Derrière ils le sortent après dix jours de
d'activité
non mais de période d'essai, de 10 jours de période d'essai et là on a donc la sortie de Fred Hébert et de son adjoint Perrusquet. On lui reproche
arrivé en octobre
qui a même pas fait encore un mercato estival, qui travaillait sur des dossiers. Et on lui reproche une fameuse story Instagram qu'il avait fait sur un joueur Oumar Soleil de Salzbourg. Mais on me dit que sur cette story notamment, bah il était en période d'essai et que derrière ça a pas posé de problème.
Fait sur la story,
en fait, en gros, il met une petite story où en gros on voit sur la story qu'il est en train de visionner un défenseur central de Salzbourg.
Ça n'a pas plu à Lens.
Donc il divulgue entre guillemets les informations à la concurrence. Sauf que finalement la période d'essai, elle est validée par Lens sur Fred Hébert, donc ça les a pas si dérangés que ça. Donc ils continuent. Fred Hébert qui avait quand même un soutien au club et notamment le soutien de Franck Haise. Et là, Fred Hébert part. Et donc, il se dit que Arnaud Pouille va aussi partir.
et que le remplaçant de Fred Hébert à la cellule de recrutement serait Lopez Gomez, qui était chef scout de Bordeaux, où les échos qu'on a chez les journalistes bordelais, chez les suiveurs bordelais, c'est une catastrophe son nom. On parle d'une arrivée potentielle de Pierre Dréossi à la place d'Arnaud Pouille au poste de DG.
Actuellement dirigeant à Metz. Hein.
Pierre Dréossi, je suis revenu un petit peu dans mes notes. Il y avait un article, notamment à la fin du départ de Francaise, où on dit que le départ de Francaise à Rennes,
a été précipité
parce que les relations étaient très très fraîches entre Pierre Dréossi et Francaise. Et là, on est dans cette situation là où en fait Lens pourrait donc perdre. A perdu Fred Hébert, pourrait perdre Arnaud Pouille, qui est quand même un architecte avec Gisolfi de la montée du RC Lens, et surtout Francaise. C'est encore en suspens parce qu'on ne sait pas quel sera l'avenir de Francaise, mais ça ferait quand même beaucoup, et surtout quand on voit ce qu'on lit sur Gomez Lopez. Et moi, les infos que j'ai, c'est que Ougourlian a voulu imposer Gomez Lopez depuis longtemps. Il avait demandé notamment à Fred Hébert de le recevoir en visio. C'est un homme de confiance et qui veut le mettre en place. Et donc c'est quand même beaucoup de péripéties qui m'inquiètent en fait au final sur la trajectoire que va prendre le RC Lens, et surtout avec le choix, et je terminerai là-dessus, sur le choix de Francaise, parce que pour moi Ougourlian joue quand même un jeu très très risqué, Nico, parce que si tu lui enlèves Fred Hébert, si tu lui enlèves Arnaud Pouille, s'il y a une visibilité très différente, ça fait beaucoup de si, mais enfin
surtout si tu perds Francaise.
Et si tu lui ramènes Pierre Dréossi aussi, avec qui ça s'est mal passé, tu prends quand même beaucoup de risques sur le départ possible de Francaise. Et si Francaise part, alors là, sur les un an et demi de ce qui se passe à Lens, mais si ça se passe à Lyon, si ça se passe à l'OM, si ça se passe au Paris Saint-Germain, mais c'est, il y a le feu dans toutes les rédacs, et j'ai pas l'impression qu'on en parle plus que ça. Et c'est vrai que moi je reste circonspect là-dessus.
On va en parler bien sûr ensemble avec vous, supporters lançés au 32, n'hésitez pas à nous appeler, êtes-vous très inquiets pour la suite,
l'avenir. Et malgré tout ça, ils ont fait 7e place en Ligue 1.
Grâce à Francaise,
il faut féliciter, voilà, Francaise par rapport à ça.
Voilà, surtout ce qui nous intéresse ce soir, c'est aussi l'avenir de Francaise. Tiens, je vais accueillir un des suiveurs les plus assidus du RC Lens, notamment sur les réseaux. Laurent Mazur est avec nous. Salut Laurent.
Salut à tous.
Supporter du Racing. Laurent. Tiens, auteur du livre également, Les joueurs sans or, raconte Francaise, qui vient de sortir d'ailleurs, mon cher Laurent. Vous pouvez l'acheter, évidemment. Comment toi, tu vis cette révolution en interne? Est-ce que tu as le sentiment qu'on travaille, qu'on fait n'importe quoi, que Joseph Gourlian fait n'importe quoi actuellement?
Non. Il n'a pas l'habitude, depuis qu'il a pris Lens en 2016, il n'a pas l'habitude de faire n'importe quoi.
Oui, c'est du très bon lien.
C'est un financier, c'est un chef d'entreprise, c'est quelqu'un qui a de la bouteille. C'est pas un lapin de 6 semaines, on ne lui fait pas. Ouais, je pense qu'il prend les décisions, j'en suis sûr, en son âme et conscience, dictée par ce qu'il pense. Là, il a une grande intelligence, une grande vision d'à peu près tout. À Lens, il a pris relativement souvent les bonnes décisions. On se rappelle aussi de décisions très dures à prendre, comme un PSE en 2018, un plan de sauvegarde de l'emploi. Forcément, c'est jamais très bien accueilli. Il a restructuré le club. Il a fait confiance à des hommes forts. Ça a été très très bien dit. Flo Gisolfi, Francaise, Arnaud Pouille aussi, bien évidemment. Et aujourd'hui, tout simplement, on est dans, je vais pas dire une fin de cycle, mais c'est le moment peut-être de pas de tout bousculer, mais de changer certaines choses pour retrouver une forme de stabilité, stabilité qui n'est plus trop présente, notamment depuis le départ de Flo Gisolfi en octobre 2022. Ça a été aussi très très bien dit. Il y a une multitude de directeurs sportifs, d'atermoiements, parfois peut-être d'incompréhension, voire un peu plus, des mauvais choix sportifs, extrasportifs, et tout ça fait qu'aujourd'hui il veut ramener un peu de sérénité, de stabilité. Et d'ailleurs, c'est ce que réclame aussi Francaise, il veut, en tout cas c'est ce qu'il a dit ces derniers mois, il veut y voir un peu plus clair. Il veut de la sérénité.
C'est pas avec ça qu'il va voir plus clair.
C'est pas avec ça, mais en fait, alors oui, on a l'impression de l'extérieur, c'est vrai, mais moi hier tout ça, je me disais, voilà, dans quoi est-ce qu'on s'embarque? Mais en fait, si on résume bien, le départ de Fred Hébert et de son adjoint, c'est pas nouveau, ça date pas du début de semaine. C'est en l'air depuis quelques semaines.
Francaise le savait aussi hein, depuis quelques semaines, voilà. Donc ça c'est un fait. Diego Lopez, oui, effectivement, c'est un homme de confiance de Francaise, de Joseph Fourgourdian, pardon. Ils veulent ramener Swat, c'est une personne. Et aujourd'hui, on parle du départ d'Arnaud Pouille. Arnaud Pouille, il n'est pas viré. Voilà, Arnaud Pouille et Joseph Fourgourdian, je ne vais pas dire, se sont accordés. Il y a bien évidemment plein de raisons qui font qu'il y a cette séparation. Mais voilà, il n'y a pas d'énorme, il n'y a pas de clash, etc. Voilà, il y a des raisons avancées aussi tout à l'heure ici même. Maintenant, c'est peut-être le bon moment. Le seul problème est le gros hic, le très très gros hic.
Alors,
Lens, c'est Francaise.
On va en parler, Laurent. On va parler avec toi. On va faire une pause. On va parler avec toi parce que beaucoup indiquent que Francaise va certainement quitter le RC Lens. Là, ce serait le plus gros préjudice hein, pour les supporters lensois, évidemment. C'est plus qu'un homme de page.
Ce serait la cause, je pense, de tous ces agissements. Qu'on a évoqué.
Les conséquences, d'autant que beaucoup scrutent en France ou peut-être ailleurs aussi l'avenir de Franck Hez dans les prochains jours, prochaines semaines.
Nice, Marseille.
Il aura clairement des sollicitations s'il annonce son départ. Reste avec nous, c'est l'After avec Kevin Diaz, Walid Acharchour. On est sur RMC et vous écoutez l'After Foot.
RMC jusqu'à minuit, l'After Foot.
Nicolas Jamin.
Avec Kevin Diaz, avec Walid Acharchour, Laurent Mazur est avec nous, supporter du Racing Club de Lens. Bien sûr, on parle des prochains mois de Lens, présent surtout avec une révolution en interne, dessinée par Joseph Fourgourdian. Après tout, comme le disait à l'instant Laurent, patron d'industrie, chef d'entreprise.
Bah bien sûr.
Peut-être qu'on est sur une fin de cycle.
Il y a un immense respect à avoir pour le travail d'Augurion.
Voilà. Sauf que le problème. C'est une chose, on est sur une fin de cycle, c'est aussi l'histoire d'un club. La fin de cycle, très bien depuis 7 ans.
La fin de cycle, encore une fois, c'est lui qui l'a décidé. Enfin, parce que.
Est-ce qu'on, son club.
Non, mais est-ce qu'on peut juger si c'est une fin de cycle ou non? Parce que quand tu prends Fred Hébert, moi, les échos que j'avais sur Fred Hébert au PFC, c'était du très très bon boulot. Quand tu prends Fred Hébert et qu'au bout de 3-4 mois, tu le sautes, alors où elle est la fin de cycle, en fait? Tu vois, donc à un moment donné, la même chose quand tu veux remettre Lopez Gomez, quand tu veux changer. Si encore une fois la destitution de Fred Hébert, elle est de Fourgourdian, j'ai bien dit si, et que en gros Arnaud Pouille et Francaise ne sont pas contents de cette décision, ça pose un problème.
Oui, les conséquences sont
parce que Fourgourdian qui avait été très bon quand on l'avait reçu à l'After cette année, hein, il avait expliqué que lui, il faisait confiance à une vraie équipe sur le sportif et qu'il n'intervenait pas. S'il commence à intervenir,
il a dit ça.
Non mais il l'a dit ou pas?
Il fait pas d'ingérence.
S'il commence en fait à intervenir et ce qui pousse au possible départ, parce qu'on le sait pas encore.
Je pense qu'il est pas très content de l'issue de la saison, en tout cas la construction de cette saison-là et de son issue, oui, qui avait un espoir de refaire top 4 en Ligue 1.
Voilà. Celui qui met Mike Mott, c'est qui? Celui qui met Fred Hébert?
Il a fait des erreurs aussi, mais c'est le patron, donc un patron ne se trompe jamais, t'as compris.
Okay.
Bon, je vous parle de Franck Hez, mon cher Laurent.
Oui.
Est-ce qu'il y a une vraie inquiétude aujourd'hui à Lens? J'imagine que oui, bien sûr. Est-ce que vous imaginez un lendemain sans Franck Hez? Est-ce que ça vous fait flipper, mais à mort, quoi?
Alors, ça fait flipper à mort. On sait très bien qu'un jour, de toute façon, Franck Hez partira quand le plus tard possible. Il me semble que Joseph Fourgourdian, notamment, et tous les dirigeants de Lens n'ont jamais voulu le départ de Franck Hez, ne le veulent pas. Ils veulent s'inscrire dans la durée, ça c'est clair. Franck Hez, voilà, moi j'imaginais personnellement plus un départ dans quelques années avec une transmission, un successeur. Mais bon, ça c'est l'idéal j'ai envie de dire, quand tout se passe bien. Là, le voir partir maintenant, ce serait forcément un autre coup dur, un énorme coup dur aussi. Voilà, on a parlé d'Arnaud Pouille qui a fait énormément dans la reconstruction de Lens et dans tout ce qui se fait à côté, entre guillemets. Franck Hez, il y a aussi tout le sportif et tout le projet de jeu. Ça fait 4 ans que Lens est en Ligue 1, ça fait 4 ans que Lens performe, il y a les recrues, il y a la construction de l'équipe, mais aussi le management de Franck Hez, sa façon de faire jouer ses joueurs, en fait.
Mais Laurent, est-ce que je te comprends? Tout a une fin. Un jour, de toute façon, il doit partir à Franck Hez. On sait que c'est un coach qui a une cote énorme sur le marché, et pas forcément qu'en France aussi. On l'a dit plusieurs fois dans la fin de saison, on l'a senti un petit peu à bout de souffle aussi Franck Hez, pour mille raisons, dont certaines que Walid a pu évoquer, des tensions en interne.
C'est ça le problème, en fait. Le problème, c'est que c'est pas que ce soit...
Et je finis, Kevin, Lens est attractif. Hein. Lens est hyper attractif aussi.
Attention.
Lens va peut-être pouvoir attirer aussi désormais un coach... peut-être expérimenté, plus référencé, ambitieux.
Aujourd'hui, il n'y a pas mieux que Franck Hez pour le Racing Club de Lens. Maintenant, quand on parle de fin de cycle, ça dépend avec qui. si t'as une fin de cycle parce qu'il te reste Gisolfi, bon allez, allez disons que Gisolfi s'en va, il te reste Arnaud Pouille, il te reste un directeur général qui a été nommé, ou en tout cas un directeur sportif en la personne par exemple de Frédéric Hébert qui avait été choisi, ou on aurait pu lui laisser le temps de travailler. Francaise décide de partir vers d'autres cieux. Pourquoi pas? Tu recrutes un entraîneur qui va arriver avec
Pouille,
qui va arriver voilà avec un socle. Mais là, en fait, l'entraîneur qui arrive, il arrive, il connaît pas.
S'il arrive avec Pierre Drey aussi, avec Gomez Lopez,
c'est inconnu quand même.
Gomez Lopez, je précise quand même, bon, ex-directeur sportif du club belge, le Royal Excel Moucron, ex-filiale du LOSC, hein, puisqu'il a aussi travaillé à Lille, il était scout pour Lille, le club voisin, le club rival bien sûr, avant d'atterrir aux Girondins en tant que scout en fait. Hein.
Il était chef scout.
Mais
encore une fois, être
travaillé avec Edmar Lopez en fait, mais c'est Edmar Lopez qui décidait.
Déjà, on ne sait pas parce que.
Il était bon cet homme-là.
On ne sait pas dans quel rôle il va venir. S'il vient en tant que responsable du recrutement,
à Lens, on cherche un directeur sportif.
Il y a un directeur sportif, un DG si Pouille part, un entraîneur si Hayes part, et donc un responsable de recrutement vu que Fred Hébert va partir. Mais entre un chief scout et un responsable de recrutement, c'est deux métiers différents, Laurent. Les gars. Entre remonter des joueurs et décider de le faire ou de négocier avec une concurrence d'autres clubs, c'est pas la même chose.
Laurent.
Non, mais pour moi, c'est clairement le point de bascule, c'est le départ ou non de Francaise. Francaise reste, on reste dans une forme de continuité entre guillemets.
Après, de sérénité.
Tout va dépendre ouais, c'est ça en fait. Tout va dépendre d'une nomination éventuelle d'un DS peut-être plus. Tout va dépendre d'un DG, etc. Voilà, encore faut-il qu'il y ait des communications officielles de la part du Racing Club de Lens. Hein. Attention aussi. Mais voilà, tout va dépendre de cela. Peut-être qu'il y aura une promotion en interne, peut-être qu'il y aura un DS autre que Pierre Drey aussi, parce que il y a son nom qui ressort, mais moi je vois, et Walid l'a très bien dit, je vois mal Pierre Drey aussi
pouvoir travailler
avec Francaise. Donc si la volonté est clairement de garder Francaise, pourquoi faire venir Pierre Drey aussi? Donc voilà, donc si Francaise reste en fait, les moments seront là. Oui, il y aura des départs, il y aura un gros départ d'Arnaud Pouille, mais ça restera.
Tu as raison sur le
sportif sera moins impacté.
Tu as raison sur les solutions internes. Il y a notamment Benjamin Parot qui a fait un gros travail, qui pourrait peut-être trouver un meilleur poste. Mais en fait, moi, ce qui me dérange un petit peu, Laurent, c'est que quand tu dis au Gourlian, il veut garder Francaise.
Il fait rien pour.
Heureusement qu'il veut garder Francaise. Mais si en fait il veut garder Francaise et qu'il lui sort tous les mecs avec qui il voulait bosser ou avec qui il était bien, en fait tu veux pas, tu t'envoies pas le signal de garder Francaise.
Est-ce
en fait
ça arrive aussi. D'accord, mais peut-être qu'il y a aussi des choses qui nous dépassent sur.
Aussi peut-être.
Moi je te dis un tout petit peu d'expérience dans le football ou dans l'organisation, ça ressemble quand même à des luttes d'influence.
Bien sûr.
C'est-à-dire que t'as l'impression qu'il y a un certain nombre de personnes qui veulent peut-être reprendre la main sur les décisions. Comme l'a dit Nico, peut-être que la saison décevante en championnat, l'élimination contre
la dernière journée a fait beaucoup de mal aussi, notamment Joseph Gourlian.
Tu tapes juste.
Tu mets 2-0 contre une équipe qui joue plus rien à Bollard, Montpellier.
Oui, voilà.
Et tu perds la place en Ligue Europa.
Peut-être que voilà. Et puis la
place. Jouer un barrage conférence.
L'histoire contre Fribourg aussi.
Le budget qui grossit.
Maintenant, il grossit de façon un peu fictive avec les rentrées de la Ligue des Champions.
C'est vrai aussi.
Est-ce que tu ne crois pas, Kevin, justement, que ça raconte pas aussi quelque chose inhérent à
la crise de croissance
exactement, qui surperforme.
Exactement.
On l'a connu dans plein de clubs dans l'histoire. Moi, je l'ai connu avec Bordeaux, évidemment.
Chacun veut prendre un peu plus de pouvoir. Chacun a son mec dans la.
Le gâteau est plus gros encore.
Bien sûr.
Avec financier d'ailleurs, responsabilité.
Les
clubs ne sont pas forcément prêts à grandir aussi vite.
Et
ça crée des dissensions internes.
Et que le président tape sur l'épaule de tout le monde en disant ça va être moi le.
Voilà.
C'est moi qui va décider, qui va mettre mes gars.
Et puis le souci des hommes, c'est que.
Et qu'il y a beaucoup d'égo.
Quand l'ego monte, l'humilité descend, j'ai envie de te dire. Et donc.
Moi, si je suis à la place d'Arnaud Pouille et qu'il me place un mec que je ne veux pas, mais je prends la porte.
Exactement, parce que.
Et oui, t'as vu ce que j'ai fait l'an dernier, je t'ai amené en Ligue des Champions.
Excuse-moi.
Et tu m'as posé un gars.
Voilà,
non, c'est pas possible.
Voilà. C'est ça.
C'est
exactement
Kevin,
ça.
Vas-y.
C'est-à-dire que, à partir du moment où toi, tu commences à avoir des résultats, mais c'est comme quand t'es un bon joueur de foot, en fait. T'es un bon joueur de foot. Quand t'es un petit jeune qui arrive, on t'amène un concurrent, c'est pas très grave. Par contre, quand tu commences à être en place, eh ben, tu vas moins comprendre qu'on t'amène un concurrent alors que t'es performant depuis deux ans.
C'est valable pour toutes les entreprises d'ailleurs.
Exactement. Ah oui. Et donc, aujourd'hui, dans le football, avec quand même, on le sait, la médiatisation, avec la réussite qui peut malheureusement, et c'est, j'ai envie de dire, c'est presque malheureusement normal, ça peut monter à la tête, hein, que ce soit d'un dirigeant, que ce soit d'un directeur sportif ou même d'un entraîneur. Monter à la tête de façon positive ou négative. Et aujourd'hui, le problème, c'est que la sérénité et la stabilité dans un club comme Lens, c'était quand même des mots qui résonnaient très fort. Et on a l'impression que depuis le départ de Gisolfi, malheureusement, ça ne ressemble pas à grand-chose.
Ah, la liste est longue, on pourrait faire une mort subite.
Bon, il y aura aussi un mercato agité, hein, Laurent. On évoque les départs quasi assurés de Kevin Danso, hein, 25 ans, qui a été écarté d'ailleurs en fin de saison aussi. Autre tension, Fulgini peut-être moins impactant pour l'effectif lensois. Va y avoir beaucoup de départs.
Il y aura des joueurs prêtés qui, en principe, je crois qu'on a très peu quand même qui reviendront, sauf peut-être Rémi Labo, Lascari. Sinon, oui, c'est sûr que Spearings, etc., ça ne reviendra pas.
De toute façon, Medina, il y a peut-être un moment, il va vouloir aller voir en Angleterre ce qui se passe.
Prolongé. Exactement. Au printemps, je pense que l'optique, c'est plutôt de le vendre l'an prochain. C'est souvent ce qui s'est pratiqué ces dernières saisons, notamment avec Seco, Fofana, il y a deux ans, voilà, de prolonger pour vendre l'année d'après.
Vous allez voir le championnat magique aussi pour Brice-Samba,
encore une fois, tout va dépendre de Francaise. Si Francaise reste, il y a certains cadres qui sont là depuis le début, qui n'auront pas de mal à rester. Enfin, encore une fois, Francaise...
Francaise, il a encore une année de contrat.
Francaise, son contrat jusqu'en 2027.
Oui, tout à fait. Ok.
Il a trois ans encore.
Mmh. Ouais, donc, c'est beaucoup.
Après, voilà, il peut démissionner, hein.
Oui, il peut, mais tout va dépendre de Francaise et ensuite, voilà, de toute la direction sportive qui va venir aussi. Enfin, un moment aujourd'hui,
oui, tout à fait.
Et puis même sur le recrutement, Laurent, il y a un truc à dire aussi, c'est que les personnes qui étaient en place ont déjà bossé sur des deals et même finalisé des deals.
Bon,
sur ça, la prochaine direction sportive qui va arriver, comment ça va se passer? Bon bref, attention, on aura temps, je pense, d'en reparler.
On va en reparler, bien sûr, parce que chaque journée qui passe apporte son lot de surprises à Lens, bien sûr. On a tellement loué le travail lensois depuis des années.
On l'a fait en long et en travers.
C'est en train d'imploser complètement en interne. On va suivre ça, bien sûr. Merci à toi, Laurent, d'être venu dans l'Inter.
C'est un plaisir
de t'accueillir. N'hésite pas à nous rappeler, bien sûr, par les mercato lensois. N'hésitez pas. Tiens, j'avais aussi noté ça pour la fin, les gars. Je pense que vous avez vu l'image du dernier match entraîné de Claudio Ranieri. En larmes avec son club de Cagliari avant le match contre la Fiorentina. Tout le stade s'est levé, ovation, l'arbitre même a applaudi. 38 ans sur un des bancs de touche. Je rappelle que
celui-là, les clubs de Ranieri,
avec Cagliari, Naples, ouais. Fiorentina, Parme et la Juve et bien sûr la Roma, l'Inter, la Sampdoria, Valence, Atletico, Chelsea, Leicester.
Non.
Son immense exploit, l'un des plus grands exploits du football moderne, bien sûr. Fulham, Watford, la sélection grecque, Monaco et Nantes. T'imagines le truc?
18 clubs.
Bref.
Non, 18 missions.
C'est énorme. C'est énorme. Il avait été joueur avant, puis 6 titres, dont celui de champion d'Angleterre avec Leicester en 2016. Voilà, bonne retraite à vous, monsieur Claudio Ranieri.
Mystère.
Ah, c'est un mystère. Ah, là, pour tous, c'est le mystère. Voilà, c'est terminé pour l'After.
C'est pas Mister Freeze.
L'After sera là demain soir, bien sûr, dès 20h pour l'After Live,
Nico,
l'After de la Coupe de France.
C'est un plaisir, Nico.
Merci à tous sur Twitter et sur Instagram aussi. Bye bye.
RMC, l'After Food.